cambia esta mirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, c'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine à la présentation Joséphine Johnson-Gonzemana. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine par ce triste anniversaire du massacre de Bugendana dans la province de Gitega au centre du pays. Eh bien, il y a 26 ans, les déplacés de l'ethnie Tutsi qui vivaient dans ce site ont été brutalement tirés de leur sommeil et massacrés par les rebelles du FDD. Dans un communiqué qui a été sorti au cours de la semaine écoulée par la CGNocide Section Canada, cette organisation regrette que les auteurs de ce massacre n'ont pas été poursuivis. On écoute Emmanuel Murundiza, le secrétaire de la CGNocide Section Canada.
Nous avons d'abord tenu à nous incliner devant la mémoire de ces innocents. Nous avons ensuite tenu à rappeler que ce massacre intervient à une période où la rhétorique anti-Tutsi regagne d'importance, de vigueur, non seulement au Burundi, mais aussi et surtout dans la sous-région. Nous avons cité justement le récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui a bien montré que derrière la rhétorique des manifestants réclamant, ou plutôt s'attaquant aux Rwandais, ils se cachés en discours anti-Tutsi et que les personnes visées dans les violences qui s'en ont suivies étaient exclusivement du groupe social Tutsi. Nous avons ensuite rappelé que quelque dérangeant que cela puisse être, ça a une origine tout à fait traçable dans l'histoire parce que les massacres de Bugendana que nous commémorons aujourd'hui ont eu lieu à peu près une année après la signature d'une convention de coopération entre le CNDD-FDD d'une part et les ex-FAR responsables du génocide de Tutsi au Rwanda d'autre part. Et c'était le 21 mai 1995 à Bukavu, Zaïre d'alors, c'est-à-dire la RDC d'aujourd'hui, que donc cette logique de viser les Tutsis a bel et bien été identifiée et qu'elle a des auteurs qui s'en vantent et qui restent impunis, même si les Nations Unies ont déjà identifié.
Au chapitre de la justice, c'est cet appel à la libération du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général de l'hôpital Kira. L'appel a été lancé par la société privée Swiss Med International, principal actionnaire de Kira Hospital. C'était à travers une note confidentielle qui a été adressée au gouvernement du Burundi. Selon cette note, la détention du docteur Sahabo ternit l'image du Burundi et constitue un obstacle du climat des affaires au Burundi. Plus de détails avec Josine Kadze.
Dans cette note confidentielle de 11 pages que détient la radio Inzamba et parue le 18 juillet 2022, Swiss Med International, actionnaire principal de Kira Hospital, indique que l'affaire Christophe Sahabo est un grotesque montage visant la spoliation des actionnaires privés dont l'investisseur suisse au profit de certains groupes politico-mafieux proches du pouvoir de Gitega et de renchérir que l'affaire est exclusivement politique et non pénale. La note confidentielle démontre que la gestion de l'hôpital était collégiale et non individuelle entre le directeur général en la personne de Dr Christophe Sahabo, le directeur administratif et financier, l'Assemblée générale des travailleurs et le conseil d'administration. Celui-ci étant composé de représentants des différents actionnaires, y compris l'État du Burundi. La note révèle la source d'accusation contre le Dr Christophe Sahabo à la page 5 de ce document. Cette source étant les conditions posées par l'actuel directeur général de la société d'assurance de Burundi, Sokabu, Charles Ndagijimana, pour que l'hôpital Kira obtienne une restructuration d'un crédit à la banque de crédit de Bujumbura, BCB. Ce dernier a été sollicité par le directeur de Kira Hospital, Dr Christophe Sahabo, pour qu'il puisse intervenir auprès de la BCB afin que l'hôpital obtienne cette restructuration de la dite dette. L'intervention de Charles Ndagijimana, directeur de la Sokabu, avait posé trois conditions. La prise de contrôle de Kira Hospital, devenir président du conseil d'administration et l'augmentation du capital de l'actionnaire majoritaire Swiss Med International. La note confidentielle indique que ces conditions n'étaient pas du ressort de la direction de Kira Hospital, mais de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. La direction de l'hôpital a décidé de contacter directement la BCB et de lui exposer une demande argumentée pour obtenir la restructuration du crédit. La banque a compris la requête et a accepté la demande. Lorsque M. Charles Ndagijimana a découvert que la restructuration avait finalement été obtenue sans qu'il puisse accéder à ces conditions, il a proféré des menaces ouvertes à l'encontre de Christophe Sarabo. Cette note indique que depuis son enlèvement par le Service national des renseignements, le dossier relatif à la détention du docteur Christophe Sarabo est émaillé de plusieurs irrégularités. En plus des violations de la loi dans sa détention, plusieurs documents physiques qui ont été fournis par l'accusé et qui devraient constituer les éléments à des charges ont été systématiquement extraits de son dossier. Et de réfléchir qu'une somme de 20 millions de francs burundais qui a été saisie dans son bureau lors de son arrestation n'apparaît nulle part dans le dossier, alors que le Service national des renseignements avait fait un procès verbal de saisie. Le SwissMed International demande la libération inconditionnelle et sans délai du docteur Christophe Sarabo. Il conclut dans cette note que sa détention ternit l'image du Burundi et qu'en somme, elle constitue un véritable frein à tout investissement étranger.
Toujours au chapitre de la justice, 6 ans après la disparition de Jean Bigirimana, ancien journaliste du groupe de presse Iwachu, la vérité n'est pas encore connue. Sa famille est biologique, celle des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme n'ont pas cessé de réclamer justice pour ce journaliste. Les détails avec Georges Nimenya.
Il y a 6 ans, le 22 juillet 2016, le journaliste Jean Bigirimana est parti travailler et n'est jamais revenu. Ancien de la rédaction d'Orima FM a été arrivé alors qu'il venait d'être recruté par le groupe de presse Iwachu. Ce jour-là, il devait rencontrer un contact à Bugarama. Jean Bigirimana aurait été arrêté par le Service national des renseignements à Bugarama. Il lui serait reproché d'avoir effectué des navettes au Rwanda et même fait un reportage sur la vie des journalistes exilés dans ce pays. Les premières semaines, certaines sources avaient indiqué qu'il serait détenu et battu dans des cellules des services de renseignement à Muramvya. Quelque temps après, le 5 août 2016, deux corps sans vie ont été retrouvés dans le secteur, l'un des deux décapité. Il a été impossible de les identifier. 6 ans après la disparition de Jean Bigirimana, sa famille biologique et la famille des journalistes sont sans nouvelles sur la disparition de ce journaliste et ne cessent de réclamer que la justice soit faite pour que la lumière éclate au grand jour.
Il est regrettable qu'après cette période de disparition de 6 ans du journaliste Jean Bigirimana, la justice burundaise n'ait pas encore publié les résultats de l'enquête sur cet acte ignoble. C'est Alexandre Niyunga, co-président de l'Union burundaise des journalistes UBJ, qui le dit. Il trouve que la justice burundaise n'a pas la volonté d'apporter la lumière sur ce dossier. Alexandre Niyunga.
Jusqu'à maintenant, la justice burundaise a arrêté les coupables de ce crime odieux qui a emporté notre confrère Jean Bigirimana. Il est vraiment regrettable de constater que 6 ans après, des enquêtes qui auront soi-disant été ouvertes depuis ce crime, que jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelles sont les conclusions de ces enquêtes. Nous lançons encore une fois un appel vibrant à la justice burundaise de statuer sur ce cas, d'arrêter les criminels, de les traduire devant les juridictions pour qu'ils puissent répondre de cet acte ignoble. Nous restons, malgré que le temps passe, nous restons avec cet espoir que ce crime ne restera pas du tout impuni. Tôt ou tard, la justice sévira. Nous allons toujours réclamer cette justice, que ce soit au Burundi ou que ce soit dans d'autres juridictions où il y a encore la volonté de réprimer les criminels.
Inzamba. En politique régionale, le président burundais a pris ce vendredi la tête de la communauté est-africaine, l'East African Community, pour une période d'une année. C'était à l'issue du 22e sommet des chefs de l'État de la communauté est-africaine à Arusha, en Tanzanie. Évariste Ndayishimiye succède donc au président kényan Uhuru Kenyatta dans un climat de tension à l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs mouvements rebelles sillonnent cette région. Entre-temps, des éléments de l'armée burundaise, composés de 2 officiers généraux, seraient officiellement envoyés en mission en République démocratique du Congo. Nos sources nous disent qu'ils seraient en mission de reconnaissance pour la création d'une force sous-régionale qui aurait comme objectif de traquer tous les groupes rebelles et de ramener la paix dans cette région de l'est de la RD Congo. Plus de détails avec Eddie Claude Ninina Hazrue.
Ces militaires ont été envoyés dans une mission en République démocratique du Congo, dans la ville d'Uvira, en province sud de Kivu, à 25 km de Bujumbura. Les noms de ces militaires en mission qui sont parvenus à la radio Nzamba sont deux officiers du grade de général de brigade, Ida Sibomana, actuel G4 logistique des forces de défense nationale du Burundi. Il a été également responsable des renseignements militaires G2, le second étant le général de brigade Dominique Nyamugaruka, actuellement commandant de la première division et ancien commandant de la brigade spéciale pour la protection des institutions SPI. Il était chargé de la protection de feu président Pierre Nkurunziza. Au rang des officiers supérieurs, il s'agit du lieutenant-colonel Idefense Baranyikwa, le commandant du bataillon police et militaire. Il est ancien commandant du bataillon du 112e bataillon Lokantibitoke. Il était chargé des opérations militaires en République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Nyandu, commandant du 212e en opération dans la réserve naturelle de la Lukoko pendant plus d'une année dans les localités riveraines de la rivière Rusizi. Depuis l'époque quand ce bataillon était au commandement du lieutenant-colonel Aaron Daichimie. Les autres officiers sont ceux du grade de major. Il s'agit du major Jean-Claude Chimilimana, major Emile Chimilimana, major Léon Seteguera et major Sylvestre Nkurunziza. Les autres militaires sont grade de caporal et caporal-chef. Beaucoup d'entre eux sont...
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité, parlons de la situation des réfugiés burundais du camp de transit Mongé de la RDC qui sont aujourd'hui dans la désolation totale. Ils disent qu'ils risquent de mourir de faim car ils mangent une fois par jour. Ils demandent au HCR de leur venir en aide dans les meilleurs délais. Le point avec Fine Kaniwabo.
Ces réfugiés burundais qui viennent de passer 6 mois dans ce camp de transit Mongé indiquent qu'ils mangent une fois par jour et reçoivent une petite quantité de nourriture. Un de ces réfugiés burundais de ce site explique que des conséquences néfastes sont énormes.
Depuis que je suis arrivé ici, on ne mange qu'une fois par jour. En plus, ils nous donnent une petite pâte. Les conséquences néfastes commencent à se manifester car il n'y a personne dans ce camp qui pèse 30 kg. Les enfants aussi subissent des conséquences de malnutrition car des enfants ayant l'âge compris entre 1 année à 3 ans ne pèsent même pas 6 kg. C'est le même cas pour les femmes enceintes car leurs cheveux ont déjà changé de couleur.
Signalons que ces réfugiés burundais du camp de transit Mongé sont au nombre de 255 selon le HCR. Ils demandent qu'ils soient assistés dans les meilleurs délais. Suite à ces lamentations des demandeurs d'asile burundais, la radio Inzamba n'a pas encore trouvé les responsables du HCR en République démocratique du Congo pour plus d'éclaircissements.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passez un excellent dimanche chez vous. À la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.